aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir le général Burkhardt, dont le parcours, les talents et la vision sont unanimement célébrés. Mon général, je vous remercie et je dois retracer en quelques phrases votre brillante carrière avant de vous donner la parole. Tâche difficile, tant votre carrière, votre parcours sont riches. Vous êtes né dans le territoire de Belfort et à l'issue de votre scolarité, vous choisissez Saint-Cyr, puis de servir dans l'infanterie. Vous êtes affecté d'abord au 2e régiment étranger de parachutistes à Calvi. Promu capitaine en 1992, vous êtes nommé commandant de compagnie et vous servez en Guyane, puis en Irak, en ex-Yougoslavie, au Tchad et au Gabon. En 1996, vous rejoignez l'état-major des armées et vous êtes promu chef de bataillon en 1997. Affecté à Cayenne en 2002, avec le grade de lieutenant-colonel, vous retournez en 2004 à l'état-major des armées et êtes promu colonel en 2005. Vous êtes ensuite détaché en Côte d'Ivoire auprès de la force Licorne, qui fut, à mon avis, mais je pense que c'est aussi le vôtre, un magnifique succès. Puis, vous effectuez deux missions en Afghanistan. En 2008, vous prenez un commandement à Djibouti avant d'être le conseiller en communication du chef d'état-major des armées. En 2013, vous êtes conseiller du coordonnateur national du renseignement à l'Élysée. Promu général de brigade, vous êtes affecté en 2015 au Centre de planification et de conduite des opérations, le CPCO, dont vous prenez le commandement en 2017 et vous êtes promu la même année général de division. En 2018, vous êtes général de corps d'armée et en 2019, vous êtes nommé chef d'état-major général de l'armée de terre et promu général d'armée. Enfin, en juillet 2021, vous êtes nommé chef d'état-major des armées. Lors de votre adieu aux armes, le 5 septembre dernier, dans la cour des Invalides, le président de la République a prononcé un magnifique discours qui nous a tous profondément émus. Je tiens à lire une citation de ce discours car elle résume bien tout ce que nous ressentions ce jour-là. Et je le cite. « Par ma voix, a dit le président, la France vous exprime aujourd'hui sa profonde reconnaissance. Vous avez été un homme d'intuition et de conviction, un chef apprécié et admiré, pragmatique, audacieux et déterminé, à l'intelligence vive nourrie par tous ceux que vous avez croisés et écoutés. » Et le président de la République vous a nommé délégué national de l'Ordre de la Libération, qui a regroupé les plus proches compagnons du général de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale et dont il faut aujourd'hui plus que jamais faire vivre les idéaux. Mon général, merci de votre présence aujourd'hui. Vous avez la parole.
Monsieur le Président, cher Jean-David Lévit, Monsieur le Vice-président, cher Haïm Korsia, Monsieur le secrétaire perpétuel, cher Bernard Stirn, Mesdames et Messieurs les académiciennes et académiciens, Mesdames et Messieurs, c'est un immense honneur et un très grand privilège de prendre la parole devant vous cet après-midi dans ce lieu prestigieux. Lorsque votre président m'a proposé d'intervenir devant vous, et je l'en remercie, je n'avais pas conscience de la totalité de la démarche qui va vous permettre, lors de ce cycle annuel, de réfléchir sur la situation stratégique à laquelle notre pays et notre continent sont confrontés et comment nous devons réagir et tenter de reprendre l'initiative. J'ai lu avec attention votre discours de lancement, Monsieur le Président, ainsi que certaines des interventions précédentes. Je suis probablement plus praticien que théoricien, mais je suis particulièrement heureux de pouvoir partager mes réflexions et surtout d'échanger avec vous sur un sujet qui touche au cœur même de notre destin collectif, notre environnement stratégique et la manière dont nous devons l'appréhender. Je le fais avec beaucoup d'humilité et d'abord avec mon expérience passée de chef d'état-major des armées, mais aussi dans une moindre mesure avec l'éclairage nouveau que m'apporte ma nouvelle fonction et celle de l'institution que j'ai la chance et l'honneur de représenter aujourd'hui en tant que, vous l'avez dit, délégué national de l'Ordre de la Libération. Évoquer le réarmement de la France et de l'Europe dans cette enceinte, dans les circonstances que l'on connaît, Ce n'est pas simplement aligner des concepts technocratiques ou des tableurs Excel. C'est peut-être aussi convoquer l'esprit des Compagnons de la Libération. C'est se souvenir que lorsque l'environnement stratégique est menaçant et plein d'incertitudes, lorsque les règles internationales s'estompent devant l'emploi de la force et la brutalité, la vie d'une nation dépend encore davantage de deux facteurs indissociables, la clarté de sa vision stratégique et ses forces morales. Pour introduire nos échanges, je vous propose d'articuler mon propos en deux parties. D'abord, une analyse de l'environnement stratégique, mouvementé, instable, et où les certitudes des 30 dernières années, mais aussi tout simplement parfois les certitudes de l'année passée, sont remises en cause. Je développerai ensuite les axes d'efforts que nous, Français et Européens, devons impérativement et rapidement développer. Comment se réarmer pour ne pas subir ? Comment réinvestir les champs moraux, capacitaires et opérationnels pour que la France et l'Europe continuent de peser dans le monde de demain ? Notre environnement stratégique. L'observation de celui-ci est incontournable avant même de parler de compréhension. Mais il s'agit bien de regarder le monde tel qu'il est et non tel que nous voudrions qu'il soit, qui est généralement un premier biais dans nos analyses. Notre environnement souffre d'une accélération de l'histoire et se traduit par quatre constats. Le premier constat est quantitatif et incontestable. Les crises ne se succèdent plus, elles se superposent et se sédimentent. Le Comité international de la Croix-Rouge recense aujourd'hui 120 conflits actifs dans le monde. Trois décennies plus tôt, il en recensait 30. Ce chiffre traduit une réalité profonde. Les mécanismes de régulation multilatérale sont grippés. La paix n'est plus l'état nominal du système international, elle en est devenue l'exception. Ce regain de violence ne se cantonne plus aux périphéries de notre continent. Il s'est réinvité sur le sol européen sous la forme d'une guerre de haute intensité que beaucoup croyaient reléguée au livre d'histoire. C'est le retour des guerres qui peuvent nous être imposées et non pas celles qu'on peut choisir, comme on l'a fait durant ces dernières décennies. Le deuxième constat montre que nous sommes définitivement sortis de l'ère post-guerre froide pour entrer dans un monde devenu beaucoup plus stratégique. Les alliances traditionnelles sont remises en cause, contestées ou reformulées. Un nouveau système international est en train de se figer sous nos yeux, celui des grands blocs et des sphères d'influence rigides. Mais aussi, chaque crise devient plus complexe, non seulement dans ses aspects militaires, mais aussi parce que l'ensemble des domaines de l'activité humaine y est à nouveau impliqué. L'économie, l'industrie, la communication, le sport, la culture et évidemment la société dans son ensemble. Quand cet élément est croisé avec le risque de guerre imposé, on comprend alors que la capacité à soutenir la guerre redevient le facteur central. Trois acteurs mènent ce mouvement des tectoniques des plaques. Je ne m'étendrai pas, ils ont été bien identifiés. La Chine, qui déploie avec autant de patience que de détermination une stratégie de puissance globale, c'est-à-dire économique, technologique et militaire, visant à redéfinir les standards mondiaux à son profit. La Russie, qui dans un réflexe obsidional qu'il a hante depuis longtemps, a fait le choix de la rupture radicale, de la militarisation de sa société et de la contestation par les armes de l'architecture de sécurité mondiale et européenne en particulier. L'ambassadeur Pierre Lévy, ici même, vous a magistralement décrit cette situation. Les États-Unis, enfin, dont le pivot vers l'Asie est une constante structurelle qu'on sous-estime souvent et dont le soutien à l'Europe, qu'on a tendance, lui, à surestimer, fluctuant au gré des alternances politiques, ne peut plus être considéré comme acquis. Troisième constat, depuis 1945, et plus particulièrement au cours de ces trois dernières décennies, avec la chute du mur, une date clé que vous avez citée dans votre discours d'entrée, Monsieur le Président, l'Occident, même si, a posteriori, on peut constater que cette vision est d'abord celle des États-Unis, vision que les pays occidentaux ont acceptée assez facilement. L'Occident a cru à la toute-puissance de son soft power, à l'universalité et l'acceptabilité par tous des normes juridiques et à la pacification du monde par le commerce et la mondialisation. Après l'avertissement sévère de 2001, il faut bien admettre qu'aujourd'hui, cette illusion est morte. Le droit international est devenu un outil de guerre juridique pour les États-puissances qui passent outre lorsqu'ils les gênent et l'évoquent pour paralyser ceux qui croient que le droit international les protège. Enfin, pour être complet, il convient d'ajouter dans un quatrième constat deux marqueurs qui jouent un rôle clé dans l'accélération du chaos. Il s'agit tout d'abord de la puissance de l'information. Le développement des technologies et la numérisation des sociétés confèrent à l'information une valeur stratégique. L'information est à la fois un enjeu et une bataille. De fait, la guerre informationnelle tend à devenir prépondérante et l'intelligence artificielle générative a ouvert de nouvelles perspectives. Les grandes puissances, s'appuyant sur des stratégies de long terme, y manœuvrent de manière très offensive et désinhibée. Les conséquences du changement climatique, deuxième marqueur, doivent également être prises en compte. Elles agissent comme un catalyseur du chaos, avec des impacts très importants sur les populations, mais aussi sur les gouvernants qui peinent à réagir efficacement dans les situations d'urgence. Russie et Chine, exploitant habilement le champ des perceptions, désignent les pays occidentaux comme responsables du changement climatique et de ses conséquences. Pour résumer la description de notre environnement stratégique, je retiens que le monde actuel semble fonctionner sur le seul respect de la puissance brute et le fait accompli. Si vous n'êtes pas capable de défendre vos frontières par les armes, aucun traité ne le fera pour vous. C'est le retour de l'hyper-réalisme dans les relations internationales. Les forts font tout ce qu'ils peuvent faire et les faibles subissent ce qu'ils ne peuvent empêcher. Face à cette description lucide et sans concession, dans ce qu'on peut appeler le grand jeu des empires, une question fondamentale doit être posée. Quel rôle veut jouer la France et donc l'Europe dans ce monde en pleine transformation, dans un monde où le faible ne peut que subir, dans un monde où, face aux grandes puissances, on est soit vassal, soit ennemi. Face à ce réveil des empires, la France et l'Europe n'ont plus le choix s'ils veulent encore compter dans le monde d'aujourd'hui. Il faut rebâtir les outils de la puissance. Quels sont les défis à relever pour y parvenir ? C'est l'objet de la deuxième partie de mon intervention. Dans un monde plus stratégique, la réponse à ces constats ne peut pas se traduire uniquement par un réarmement militaire. La réponse, le réarmement, doit être global, systémique et s'articuler autour de trois dimensions indissociables. Le réarmement intellectuel et moral, le réarmement capacitaire et le réarmement opérationnel et doctrinal. La priorité doit être donnée au renforcement de la cohésion nationale. Un système d'armes, aussi performant soit-il, n'aura guère d'utilité si le soldat qui le sert ou le citoyen qui le finance n'a pas la volonté de se battre. Le réarmement commence dans les esprits. La cohésion nationale est le centre de gravité de la résilience d'une nation. L'exemple ukrainien est assez incroyable, comme l'a souligné devant vous l'ambassadeur de France à Kiev, Gaël Vestière. Si l'Ukraine résiste maintenant depuis plus de 4 ans, déjouant, il faut le dire, tous les pronostics, c'est parce que chaque citoyen ukrainien est conscient de son rôle et de sa responsabilité dans la vie et la survie de sa nation. Preuve de leur importance, la cohésion nationale et l'esprit de défense sont d'ailleurs les cibles privilégiées de nos compétiteurs, de nos adversaires et de nos ennemis. Car un pays sans cohésion ne se battra pas. Le réarmement moral, le réarmement de l'esprit de défense doivent être une priorité nationale. On peut les décliner selon trois axes. Tout d'abord, le sens du sacrifice et de la citoyenneté. La cohésion nationale peut se définir de la manière suivante. On est conscient de faire partie d'un groupe plus grand que soi. On est conscient de ce qu'on doit à ceux qui nous ont précédés. Et enfin, on est conscient qu'on a une responsabilité vis-à-vis de ceux qui viendront derrière nous. Notre société s'est habituée au confort et à l'individualisme. C'est probablement bon signe, ça veut dire qu'on est plutôt en sécurité. Pour autant, elle a oublié que la liberté est un bien précieux, qui a été chèrement acquis, qui se mérite et qui doit être défendu. Le réarmement moral exige de recréer un véritable esprit de défense. L'éducation nationale a évidemment un rôle majeur dans le renforcement de la cohésion nationale, dans l'apprentissage de la citoyenneté, dans la valorisation du récit national. Elle doit être appuyée par tous dans cette mission. La cohésion nationale concerne l'ensemble de la société et des forces vives de la nation. Cependant, les armées et les entreprises peuvent être les moteurs de cette résilience. L'armée, parce qu'elle a une action forte en direction de la jeunesse, parce qu'elle demeure un creuset d'intégration unique, une école du mérite et de la fraternité, où le commandement s'obtient par le respect et la confiance. L'entreprise, parce qu'elle est le lieu de la création de la richesse et de la stabilité économique face aux tensions socio-économiques intérieures et extérieures. Enfin, la cohésion nationale face aux menaces hybrides, car les guerres modernes se jouent dans le champ des perceptions et en particulier sur les réseaux sociaux avant de se jouer sur le champ de bataille. Les manipulations de l'information par nos adversaires visent à fracturer notre cohésion nationale. Le réarmement moral, c'est armer l'esprit de nos concitoyens face à la désinformation, développer leur esprit critique pour qu'ils soient des acteurs conscients de la défense de la patrie et non les victimes passives d'une guerre cognitive. De manière plus globale, je pense que la cohésion nationale est indispensable à la vitalité d'une nation. La cohésion nationale est en effet probablement aussi ce qui permet à une nation de s'adapter et de se transformer, de faire face aux choix, donc au renoncement, et donc à des sacrifices, sans même parler du sacrifice. C'est aussi la cohésion nationale qui permet d'appréhender avec sérénité les enjeux nationaux et européens. Le réarmement capacitaire. Maintenant, avec un équilibre à ajuster entre rationalisation industrielle et souveraineté. Le réarmement capacitaire couvre un champ assez large. En fait, il est globalement la réponse à la question « avec qui ?» dans de nombreux domaines. Il doit permettre de résoudre les dilemmes entre souveraineté et développement de partenariats stratégiques. Il faut rappeler que la France possède une position singulière sur ce sujet, une de plus, diront certains. En effet, aujourd'hui en Europe, c'est probablement et même certainement le seul pays qui possède à la fois la volonté politique et militaire et les moyens de conduire, si nécessaire et en dernière extrémité, une opération militaire seule. Je pense avoir toujours recommandé au président de la République des options militaires qui privilégiaient une action en coalition ou en partenariat. Mais pour autant, nous avions toujours un plan que nous aurions pu jouer, même si nous étions seuls. Un plan plus risqué, moins efficace, nécessitant de faire autrement, mais nous devons être capables de faire seuls si nécessaire. La plupart des pays européens, en fait tous les autres pays européens, n'envisagent pas de conduire des opérations autrement qu'en coalition, et en particulier avec le soutien des États-Unis. Forcément, cela devient très inconfortable aujourd'hui. Le développement capacitaire doit être questionné. Évidemment, la souveraineté doit être recherchée absolument pour certains domaines critiques, en particulier la dissuasion. Mais il est aussi indispensable de rationaliser la coopération au niveau européen, sous peine d'être marginalisé et de, paradoxalement, accentuer notre dépendance globale à la base industrielle, technologique et de défense américaine. Mais soyons lucides, la compétition industrielle débridée entre Européens est mortifère. La clé réside dans des alliances technologiques et industrielles restreintes, fondées sur une solidarité stratégique claire entre quelques pays qui partagent la même vision de la menace et la même volonté d'investir. C'est en créant des noyaux durs de coopération, par exemple sur l'intelligence artificielle, les drones ou le quantique, que nous ferons émerger de vrais champions industriels européens capables de rivaliser à l'échelle mondiale. Mais il n'y aura pas d'avancée dans ce domaine sans prise de conscience et implication politique forte. À une échelle moindre, le développement capacitaire doit encore davantage s'appuyer sur les technologies duales. Il y a urgence à mettre en place une révolution dans les affaires capacitaires pour mieux utiliser l'imagination et la réactivité des start-up, des PME et des ETI. Ce sont elles qui, aujourd'hui, sont probablement plus adaptés et plus libres pour développer la plupart des nouvelles armes du champ de bataille, mais aussi pour fournir différentes formes de soutien aux forces. De la même manière, nous devons davantage travailler avec le monde civil et en particulier le monde des chercheurs et des think tanks. Pour terminer, le réarmement opérationnel et doctrinal, qui en fait doit faire face ou relever le défi de l'impératif de vitesse d'adaptation et de soutenabilité. Ce réarmement opérationnel et doctrinal doit s'opérer à deux niveaux. Tout d'abord, il faut tirer toutes les conséquences de la désinhibition dans l'emploi de la force. Cela signifie qu'il faut protéger à tout prix ce qui constitue notre cœur de souveraineté, c'est-à-dire ce qu'on doit préserver pour pouvoir supporter un premier choc, puis remonter en puissance. Dans ce cadre, la dissuasion doit continuer à être renforcée et maintenue à son plus haut niveau. Elle est le cœur de notre stratégie de défense. Mais c'est aussi le cas de notre capacité autonome d'appréciation de situation, pour rester souverain dans notre compréhension et nos prises de décision. Notre système d'hommes doit aussi faire l'objet de toute notre attention. On peut avoir une loi de programmation militaire au plus haut niveau. Si vous ne trouvez plus de jeunes Françaises et de jeunes Français pour servir sous statut militaire, statut très contraignant, garantissant, quelles que soient les circonstances, de pouvoir engager nos forces en commençant par la dissuasion, tout cela ne servira à rien. De manière plus générale, il faut faire un effort de protection, non pas pour développer une stratégie défensive qui construirait une nouvelle ligne Maginot, mais au contraire, pour ne pas restreindre notre liberté d'action. C'est vrai, par exemple, pour la défense solaire comme pour le cyberespace. Vous comprenez bien qu'il est inutile de disposer de capacités d'action dans le cyberespace si, en retour, par riposte de l'adversaire, vous risquez la paralysie de vos hôpitaux ou de vos centrales nucléaires. Enfin, pour ce premier volet, plus que jamais, notre stratégie doit consister à gagner la guerre avant la guerre, c'est-à-dire à décourager nos compétiteurs et adversaires de devenir nos ennemis, c'est-à-dire de passer à l'action contre nous et contre nos alliés. Ce combat se situe d'abord dans le champ des perceptions, notre niveau de préparation, la solidité de nos partenaires stratégiques, mais peut-être encore plus notre cohésion nationale, sont les meilleurs atouts pour gagner cette guerre avant la guerre. Maintenant, à quoi faut-il se préparer pour être le plus prêt possible? Qu'est-ce que nous apprend le champ de bataille ukrainien, mais aussi la guerre contre l'Iran? Ce que ces deux champs de bataille nous montrent, c'est tout d'abord le changement d'échelle dans le volume d'hommes engagés, dans le niveau des unités tant terrestres, aériennes que maritimes, mais changement d'échelle aussi dans la consommation de munitions, la destruction des matériels et les pertes humaines. Cela nous apprend aussi l'extension du champ de bataille. Plus personne n'est à l'abri, pas même le territoire national, notre industrie d'armement ou nos lignes de communication et de ravitaillement. La population civile peut à nouveau être menacée directement, surtout et d'abord dans le champ des perceptions. Ceci nous montre aussi un champ de bataille quasi transparent, ce qui, associé à des armes de plus en plus précises, se traduit par une létalité très forte des opérations. Manœuvres et concentration de forces deviennent très contraintes. Enfin, la soutenabilité redevient un critère majeur, sinon le critère décisif. Cette soutenabilité est le juge de paix dans tous les domaines, humains, matériels, munitions, mais aussi dans le champ des perceptions en termes de volonté. Pour les équipements, les matériels et les munitions, il faut être capable de produire au juste niveau technologique et ne pas croire que tout problème peut être ou doit être résolu par une solution de technologie supérieure. La soutenabilité sur le champ de bataille se résume finalement à une question. Qui tue quoi et à quel prix? Notre industrie de défense doit être capable de répondre à cette question en permanence. Tout ceci est parallèlement soumis à un rythme d'évolution inédit. Les guerres jouent toujours un rôle d'accélérateur. Aujourd'hui, sur le champ de bataille ukrainien, le cycle d'évolution des procédures et adaptation des matériels et des logiciels est souvent inférieur à un mois. Cela nécessite beaucoup d'imagination, mais aussi la mise en place de boucles courtes pour prendre en compte et diffuser l'innovation très rapidement. Cette imagination et cette rapidité, elle doit aussi s'implémenter dans la manière de commander les opérations, avec toujours plus de subsidiarité, l'emploi de l'intelligence artificielle, tout en maintenant une capacité à créer des synergies, seules à même de déséquilibrer et de percer les dispositifs adverses. Avant de répondre à vos questions, je terminerai avec trois points. Le premier est que nous devons avoir confiance dans nos valeurs, ne pas être naïfs, mais ne pas se renier dans un sens comme dans l'autre. Elles sont un guide qui, à la fin, nous donne un avantage. Monsieur le Président, vous l'avez rappelé dans votre discours d'ouverture, ce sont les valeurs européennes qui ont fait les valeurs occidentales. Ce sont les valeurs inventées en Europe depuis le traité de Westphalie qui ont largement inspiré la Charte des Nations Unies. Aujourd'hui, la France et les Européens ont encore un rôle à jouer et sont probablement plus attendus qu'on ne le pense sur ce plan-là. Mais il faut le vouloir et défendre nos valeurs. Le deuxième point est la centralité de la cohésion nationale. J'en ai, je pense, suffisamment parlé. Enfin, le dernier point est que je considère qu'aujourd'hui, nous devons chercher à prévenir les crises plutôt qu'en gérer les conséquences, conséquences qui sont souvent lourdes et irréversibles. C'est plus difficile à faire, car plus difficilement justifiable en amont et avec des effets plus difficilement mesurables. Mais dans l'environnement stratégique tel qu'il est, si on ne prend pas de risques, on perd. Car si agir, c'est prendre des risques, aujourd'hui, l'inaction est encore plus risquée. Si la France et l'Europe refusent aujourd'hui de prendre des risques, de payer le prix de leur réarmement moral, capacitaire et opérationnel, alors elles condamneront les générations futures à subir les lois dictées par d'autres. Merci pour votre attention.
Merci, mon général, pour cet exposé à la fois clair et encourageant si on met en œuvre ce que vous venez de nous recommander.